RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
C'est la deuxième heure de l'after jusqu'à minuit. Les drôles de dames sont là pour cette semaine qui se prépare. Nous aurons Liverpool-Roma, nous aurons Bayern-Real, nous aurons Caen-Toulouse également, match en retard de Ligue 1, à ne pas oublier cette semaine. L'after sera là pour revenir sur toutes ces rencontres.
Cher.
Oui, bien sûr. Très bon retour dans l'émission, Daniel. Avec donc Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames. Simone Rovera pour l'Italie.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Fred Hermel en Espagne, salut Fred.
Hola chicos.
Philippe Auclair en Angleterre, salut Philippe.
Présent, professeur Tour.
Et David Lorto, on n'exagère rien. Salut David.
Allô Fred, salut Jean-Louis, salut à tous.
David va s'intéresser au poste de gardien de but au Bayern et en sélection allemande. Simone va s'intéresser à Allegri. Fred Hermel va placer Iniesta dans l'histoire du foot espagnol. Et Philippe Auclair commence tout de suite par le banc de touche d'Arsenal.
La saison pour Guardiola sera un échec. Mais mon avis tranché, c'est que même si c'est un échec, ça ne veut pas dire qu'il aura échoué.
Et j'avais raison.
Oui, enfin, c'est pas vraiment un échec.
J'ai pas vraiment compris.
Mais c'était l'année dernière, ça.
Ah, c'est ça. Je crois que c'était un montage, moi-même.
Mais non, c'était l'année dernière.
Donc,
la saison sera un échec, mais il n'aura pas échoué.
Eh oui, puisqu'il a réussi.
Parce qu'il aura construit, voilà, etc.
Alors, Philippe, donc.
On parle pas de Guardiola du tout. On parle de.
De Wenger.
On parle pas de Pep, on parle de Pepsi Light. Luis Enrique.
Pourquoi
parce que là, il est maintenant coté à 2-1 par les bookmakers britanniques pour prendre la succession d'Arsenal. Et je suis consterné. Donc, pour une fois, j'ai un avis vraiment tranché. D'habitude, j'essaie de faire un peu nuancé, mais là, franchement.
Mais alors, attends, juste avant l'avis, pourquoi tu es consterné? Juste sur les infos, hormis les bookmakers, ça te paraît solide, crédible?
Bah, j'espère que non.
Oui,
je prie que non.
Bah,
je
suis à un moment, Luis Enrique, il était à 90% au PSG, hein, donc tu peux te sauver encore.
Oui.
Alors, je suis très proche de Chelsea, selon certaines proches d'Antonio Conte.
Mais c'est vrai.
D'accord.
Aussi.
Bah, décidément, en ce moment, ça part dans tous les sens. On parle aussi de Mikel Arteta, qui est. Ça dépend un petit peu de qui téléphone aux journalistes qui font les infos, entre guillemets, qui sont pas des infos mais des rumeurs. Mais dans ce cas-là, ça fait quand même un petit bout de temps que ça circule, et le fait que le directeur sportif d'Arsenal soit désormais l'ancien directeur sportif du Barça, fait que je pense beaucoup de gens s'imaginent que ces rumeurs dans le cas de Luis Enrique sont plus solides que d'autres.
D'accord.
Voilà.
Alors pourquoi tu es consterné?
Je suis consterné parce que pour moi c'est un petit peu j'ai du mal à comprendre le mythe Luis Enrique. Je peux me tromper et je suis ravi que Fred et Simone soient avec moi avec nous ce soir. J'ai quant à moi souvenir que le passage à la Roma a été une catastrophe.
C'était une Roma compliquée. Lui n'a rien fait pour aider.
Bon,
sa personnalité ne marchait pas avec la Roma de l'époque. Et les jeux n'étaient pas extraordinaires, c'est sûr.
Je peux te garantir également que la situation d'Arsenal n'est pas extraordinairement simple à gérer. Ensuite, il était passé au Celta de Vigo, où il avait été.
C'est pas mal.
Ok. On va dire il était ok. Hein. Il avait terminé 9e.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
Mais
ça
je me souviens aussi au Barça des problèmes de vestiaire mais colossaux qu'il y avait eu pendant son passage.
Bah, tout simplement, au bout de 6 mois, après une défaite à Saint-Sébastien où Messi était resté sur le banc parce que Luis Enrique lui avait laissé plus de jours de vacances, il était arrivé d'Argentine 2 jours avant, donc logiquement il était sur le banc, le Barça perd. À la fin du match, le président Bartomeu descend, va voir Messi, dit « Est-ce que tu veux que je vire Luis Enrique ?» Et l'autre dit « Non, mais faut pas qu'il m'embête. » Et donc finalement, il y a une sorte... d'autogestion et il gagne la ligue de gestion interne du vestiaire où Luis Enrique ne parlait souvent qu'à travers son adjoint et finalement il gagne quand même la Ligue des Champions hein, donc c'est pas mais c'est
ah
vrai
oui.
qu'il a eu beaucoup de mal, il a été à un oui ou à un non de Messi de quitter le Barça au bout de 6 mois.
Et je pense qu'on peut également se souvenir que je peux me tromper mais que il prend également l'une des plus grosses claques de l'histoire du Barça en Ligue des Champions face à un club que vous connaissez bien. Et que bon, ensuite, il se passe d'autres choses, mais c'est assez étonnant que de voir un entraîneur qui a zéro expérience de la Première Ligue en plus être ainsi placé en pole position. J'avoue que je comprends absolument pas. J'ai un petit peu, je crains, franchement.
Mais est-ce que tu crois que les dirigeants, par rapport à ce qu'ils viennent,
oui,
de vivre donc avec Wenger qui était également manager et le souci qu'ont toujours eu les dirigeants de faire attention évidemment à l'économie du club. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent aller sur un profil aussi particulier, aussi pointu?
Bonne question. Je suis pas certain.
Moi, ça m'étonne un petit peu, mais sachant moi, que, alors c'est vrai que je suis peut-être un petit peu brouillé parce que je crois savoir que Ancelotti va retourner en Première Ligue, qu'il le veut profondément et qu'en Première Ligue, à part
Chelsea, il voulait Paris, mais il serait ravi de rester en Europe, donc en Première Ligue.
Donc en Première Ligue, il n'y a que Londres, il n'y a que Chelsea et Arsenal.
Ou Tottenham si jamais Pochettino part.
Mais Ancelotti va pas prendre Tottenham, c'est pas
non, je crois pas. Je pense Chelsea.
C'est pas
Chelsea. Mais Pochettino, il va aller où?
Non. Moi, je te dis que même Londres lui plaît tellement.
Il y a deux fauteuils là. Ouais. On sait libre maintenant. Arsenal, Chelsea.
Bien sûr.
Et Ancelotti va en prendre un des deux. Voilà. À mon sens.
Ok.
Tu serais moins consterné là d'un coup, Philippe.
Ah, je serais beaucoup moins consterné. On serait tous ravis de retrouver notre Carlo National qu'on a adoré quand il était passé à Chelsea, qui a laissé d'excellents souvenirs, et pas seulement aux fans de Chelsea. Il a laissé d'excellents souvenirs dans le championnat d'Angleterre tout entier.
Mais c'est après, quand t'as eu
ce choix est colossal, Daniel, parce que
mais bien sûr, parce que lui il faisait manager et tout. Ancelotti,
même si son rôle est diminué,
il va lui falloir un directeur sportif.
Oui. Non, mais absolument. Et Ancelotti, lui, il a l'habitude de travailler dans ce type de situation. Je veux dire, il a travaillé avec Berlusconi, il a travaillé avec Abramovich. Alors arrête.
Et il a travaillé avec
Florentino Pérez et avec le PSG. Donc il a de l'expérience dans ce domaine. Mais le choix de manager, rarement un choix de manager, à mon avis, aura une telle influence sur la stratégie à long terme ou sera indicatif de la stratégie du club, voire même s'il y a une stratégie ou pas. Parce que tu peux en effet choisir un manager jeune, faire un pari, te dire bon ok, comme va le faire le club qui prendra Thomas Tuchel. C'est Tuchel, tu prends pas un entraîneur comme ça sur un an ou deux ans. C'est un projet, tu construis un projet de jeu et un projet d'équipe. Si tu prends un Carlo Ancelotti, tu sais que tu choisis la sécurité, tu choisis un sage du football et quelqu'un qui peut t'apporter des résultats en très peu de temps et te stabiliser la maison. Tu prends Luis Enrique, oui absolument. Tu prends Luis Enrique, pour moi ça serait catastrophique. C'est comme c'est une pièce de puzzle qui n'est pas coupée de la bonne façon.
Non mais surtout Philippe, est-ce que lui ça a jamais été un manager, c'est un pur entraîneur.
C'est-à-dire qu'il voudrait ça. Si tu veux justement, c'est ça le fait que Wenger était très frustré ces dernières années de devoir travailler avec une équipe beaucoup plus importante qui lui avait été imposée que ce qu'il faisait auparavant quand il prenait quasiment les décisions tout seul ou avec David Dean, etc. Là, il y a maintenant une structure en place qui est plus complexe. Où il y a des analystes, des consultants, des ceci, des cela, des agences extérieures. C'est beaucoup plus compliqué pour prendre les décisions, mais c'est un système de fonctionnement, ma foi, qui est répliqué dans beaucoup d'autres clubs contemporains. Wenger, ça ne lui allait pas du tout, et c'est quelque chose qui était contre sa façon de percevoir son métier d'entraîneur. Le prochain, il se peut qu'on cherche quelqu'un, en effet, comme tu disais, Daniel, qui soit plus souple, qui soit plus un coach, qui soit là pour gérer l'équipe et seulement l'équipe, plutôt que Wenger, l'homme qui choisissait la couleur de la moquette, la forme
des bandes touches.
Excusez-moi. Non. C'est mon anglais. Par moments, c'est terrible. C'est les guêtres que l'on met par-dessus les chaussures quand on va dans le vestiaire. Il avait également dessiné ça. Les petites cuillères, etc. Et il est possible que il cherche quelqu'un qui soit pas aussi un maniaque du micro-détail que Arsène pouvait l'être.
D'accord.
Et peut l'être. Parce qu'il n'a pas changé. Et il changera pas. Encore une fois, là, mon avis tranché, c'était le fait que, attention, ce choix-là, il est absolument crucial. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est que, justement, on ne se tourne pas vers un entraîneur qui, comme un Ancelotti, voire autre entraîneur que moi, j'aime énormément, et qui, à mon avis, serait très bien, au moins, pour faire une transition, Lucien Favre, des entraîneurs qui sont safe, en quelque sorte.
Trop risqué pour
jeu. Okay. Qui soit en accord avec les traditions d'Arsenal, traditions wengeriennes d'Arsenal, mais qui soit également peut-être des choix plus raisonnables que celui d'un Enrique.
Pas mal de choses dans l'actu en plus de ton avis tranché chez toi, Philippe. Donc on va essayer d'être synthétique.
On va être simple et concis. Et absolument. Basique.
L'ambiance donc à Arsenal autour de ce match, c'est un peu particulier du coup, non?
Ouais, bizarre parce que en fait c'est pas un match d'adieu. Donc, je pense que le public ne sait pas très bien comment se comporter parce que les matchs
d'adieu. Ah non, parce qu'il y a un adieu qui pourrait être beaucoup plus fantastique.
Et exactement.
Il manque un truc au palmarès d'Arsenal de Wenger, c'est une Coupe d'Europe.
Oui.
Il y a eu deux finales de défaites.
La finale perdue contre Galatasaray en Coupe de l'UEFA, la finale de Ligue des Champions perdue contre
Barcelone. En plus, les deux, je trouve, avaient été des défaites un peu
qui avaient laissé un peu sale quoi.
Ah, enfin, oui. Avec Galatasaray, un vieux goût pourri dans la bouche quand même.
Mais les supporters, ils sont pas un peu les fesses entre deux chaises là, parce que ils réclament le départ de Wenger depuis des années, et en même temps, il a révolutionné le club, donc.
Oui, et puis surtout, ils se demandent mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et les jeunes supporters n'ont jamais connu d'autres entraîneurs que Arsène Wenger. Donc ça fait drôle, tu perds papa quand même, hein. Ouais. Tu perds la figure du père. On sait pas ce qui va se passer. Le timing de l'annonce a surpris absolument tout le monde, et je dis bien absolument tout le monde, y compris beaucoup de gens qui sont très proches ou qu'on dit très proches d'Arsène Wenger. Et tu as donc t'avais une ambiance très particulière. Toutes les places n'étaient pas prises. Il y a l'Atletico qui arrive, et puis il y a un dernier match qui sera contre Burnley, l'avant-dernière journée du championnat, qui là sera le match des vrais adieux à l'Emirates. Donc l'ambiance n'était pas, franchement, pas géniale.
Liverpool, qu'est-ce qu'on en dit à la veille de la demi-finale de Ligue des Champions? Ils avaient fait tourner là ce week-end. Hein.
Oui, je crois qu'il y avait 6 joueurs qui n'ont pas joué et qui joueront, et pas des moindres. Liverpool a fait son boulot tranquillement avec une équipe bis et est tombé sur une équipe de West Brom qui est déjà condamnée à la presque mathématiquement condamnée à la descente et qui joue avec beaucoup de liberté sous son nouvel entraîneur Darren Moore et qui est revenu en toute fin de match. Absolument aucun enseignement à tirer pour le match contre la Roma de ce 2-2 contre West Brom, si ce n'est le fait que Liverpool, et c'est une très bonne chose, sera au grand complet.
Ouais, avec Salah qui a été élu.
Oui, alors je parle de grand complet. Quelques nouvelles de Mohamed El Neni qu'on craignait être
victime.
Ouais, mais qu'on craignait parce que on va venir à Salah, coéquipier de Mohamed Salah, le deuxième joueur le plus important de l'équipe d'Égypte. On se disait c'est pas possible, il s'est cassé la jambe juste avant le mondial. Non, apparemment c'est juste un problème ligamentaire. Il devrait pouvoir participer à la Coupe du Monde avec l'Égypte, ce qui est une excellente nouvelle pour les Pharaons.
Ok. Et donc Salah joueur de l'année, pas très surprenant.
Enfin, il y a la concurrence, il est joueur de l'année des joueurs. On va voir ce que ça va donner pour l'équivalent du Ballon d'Or, puisque celui qui est le prix choisi par les journalistes. On en parle beaucoup entre nous et on est franchement très 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 divisé. Il y a vraiment les De Bruyniens et les Saliens.
Dis donc, est-ce que c'est arrivé souvent que le meilleur joueur de la PL ne soit pas dans le club champion?
C'est arrivé quelques fois. C'est arrivé.
Ça doit pas être la règle quand même.
Mais tu as eu David Ginola, par exemple, l'a été.
Ouais.
Scott Parker, de manière incroyable, l'a été. Mmh. Parce que son club avait été relégué cette saison-là. C'est arrivé de temps à autre. Mais, généralement, ça va aux joueurs, aux meilleurs joueurs de la meilleure équipe. Donc, ce qui, dans ce cas-là, serait évidemment Kevin De Bruyne.
Le débat a été, entre Salah et De Bruyne, on a eu deux mecs qui ont fait deux saisons de fou.
Mais absolument. Après. Savoir qui est le meilleur footballeur des deux, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Le plus complet.
Je sais pas, mais
Le plus complet, moi, je sais, c'est Kevin De Bruyne.
Bah, c'est le même poste.
Ouais, faut, je sais pas.
J'ai dit le footballeur est plus complet.
Salah m'a beaucoup épaté cette année, mais
oui, mais c'est deux postes différents, Philippe.
Ouais, c'est deux postes différents. Non, mais.
Mais est-ce que t'es un meilleur footballeur quand t'es au milieu, quand t'es devant, enfin, tu vois?
Le footballeur le plus complet qui peut jouer 6, 8 ou 10
Il est habile, quand même, le mec, hein.
Après, il y a 2 ans, je suis pas sûr qu'on aurait dit qu'il jouait pas au même poste. Il y a 2-3 ans.
Ouais. Oui, c'est vrai.
De Bruyne a reculé. Si tu penses comment ils ont évolué, c'est extraordinaire.
Ouais. Enfin, de façon peut-être inconsciente, indirecte, dans ce qui doit être un vote sur les performances en championnat, la Ligue des Champions n'a pas joué un peu.
Ouais, si.
C'est possible, sauf que les joueurs,
tu les vois les matchs.
Parce que ce que Salah a fait, juste, en plus, c'était un Liverpool City. Salah est sorti vainqueur de la double confrontation. Est-ce que ça a pas influencé un peu, ouais, quand même.
C'est un petit peu, mais cela dit, le vote des footballeurs est, exprimé beaucoup plus tôt. Et je suis certain qu'il y a beaucoup qui auront
Avant les quart de finale.
Absolument.
Eh ben ils les font voter quand? Ils vont les faire voter la mi-saison aussi.
Ah écoute, autrefois le joueur de l'année de la PFA était annoncé encore plus tôt que ça. Il votait au mois de mars.
Ça marche un peu partout pareil. Daniel, c'est vrai que pour récolter tous les votes dans chaque vestiaire, il y a des papiers qui passent.
Mais ça rime rien.
Bah ça rime rien.
Oui. Le mec qui fait les 10 dernières journées qui est en fusion.
Et puis les papiers, c'est fini ça. Maintenant tu leur mets un téléphone. Il vote par téléphone et c'est réglé, tu vois. Il n'y a pas à les recueillir dans chaque club.
Je peux te garantir que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Voyons comment ça se passe de l'intérieur pour le vote du footballeur de l'année. Je vois comment ça se passe de l'intérieur, je peux te dire que c'est compliqué. Et par contre, là, le vote du footballeur de l'année, ça se conclut à la fin du mois d'avril.
Moi, je pense que ça marche encore sur des votes qui sont recueillis dans le vestiaire et qui sont renvoyés.
Faut dépoussiérer tout ça, là.
Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que des fois, il te manque 2 mois et demi, 3 mois de compétition.
Voilà pour l'Angleterre, messieurs. On passe à l'Espagne dans un instant. Avec l'avis tranché de Fred Hermel qui concerne Andrés Iniesta. Restez avec nous, c'est l'After sur RMC, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo, Pierre Ducrot, nos drôles de dames, Philippe Auclair, David Lorto prépare son avis tranché sur le gardien de but du Bayern, Simone Rovera prépare son avis tranché sur le seul championnat restant où il y a de l'enjeu, où il y a de l'intérêt, parce qu'on va pas se le cacher messieurs, tous vos championnats sont pliés.
Mais plusieurs journées de la fin en plus.
Oui, c'est ça.
Combien de journées il reste chez vous les gars?
C'est bien parce que comme Simone va être le moins mobilisé pendant la Coupe du Monde, c'est bien que ce soit lui qui finisse le plus fort quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et encore est-ce que 3 des champions. Et puis il y a un autre truc aussi quand même, c'est avec cette réforme de la Ligue des Champions, maintenant il y a plus d'enjeux sur les 4 premiers. Donc par exemple, tu vois, en Espagne, c'est complètement plié.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu dommage ça. C'était bien parce que les équipes entre le 3e et 4e, ça changeait toute la saison. Si tu devais
terminer 3e, tout ça.
Ouais, c'est vrai,
c'est vrai.
Donc, parce que chez vous, en Espagne, c'est même bouclé pour les 4 premières places.
Ouais, c'est ça.
C'est c'est pour ça.
Et en Angleterre,
ils auraient 3,5.
Non, en Angleterre, les 4 premiers, il peut y avoir.
Mais c'est les 4 premiers dans les 4 grands pays. Enfin, excusez-moi, les 4 grands pays.
Il y a un suspense pour la 4e place ou pas? Ou c'est bouclé la 4e place?
C'est pas bouclé dans la mesure où Tottenham est à 68 points et Chelsea à 63. Et tu te dis si jamais Tottenham est dans une spirale un petit peu comme celle des années précédentes, pourquoi est-ce que Chelsea ne pourrait pas en profiter?
Si là il y a de l'enjeu, qu'est-ce qu'on doit dire de l'Italie alors? Excusez-moi.
Là,
tu prends moins risque que moi avec mon
Jacob. Je vais prendre le classement puisque j'ai France Touffe dans les mains.
Oui. La Roma Lazio à égalité et l'Inter en point derrière. Et 2 sur 3.
Bah oui, attends.
De toute façon, l'Italie, on n'y est pas encore.
T'as Simone avec toi là, tu t'as pas besoin de France Touffe.
Mais tout le monde veut l'Italie. C'est un jingle Fred Hermel.
L'Inter et la Lazio, il y a un point.
Non, pas tout de suite. Si, on y va, jingle Hermel.
Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon on est un gros con. Voilà, je suis un con. Cristiano a marqué.
Oh là là.
C'était l'an dernier ça. Contre le Bayern.
C'est ça.
À Bernabéu.
Et on remet ça donc cette semaine. Mais
cette semaine.
Ce n'est pas ça l'objet de ton avis tranché. C'est Andrés Iniesta.
Ben oui, parce que au moment où je vous parle, 23h22 heure de Madrid.
Mais
23h22, oui. 3-4 kilomètres à vol d'oiseau de chez moi. Il y a des dizaines et dizaines de personnes qui se relaient depuis des heures et qui vont se relayer encore durant de longues heures pour lire le Don Quichotte. Vous savez, Don Quichotte, le personnage le plus connu de l'histoire de Castille-la-Manche. La Mancha, telle qu'on l'appelle ici en espagnol. Et il y a tout juste 48 heures, l'autre homme le plus connu de l'histoire de la Mancha, un certain Andrés Iniesta, marquait un but, sortait du terrain. Dans cette victoire, cette balade, ce beau match du Barça face à une équipe de Séville qui a explosé, je vous rappelle le score 5-0. Et là, c'était une finale tendue entre des séparatistes catalans d'un côté, les Andalous très très fervents défenseurs d'unité de l'Espagne. Et puis là, tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. On a oublié la rivalité sportive, la rivalité politique. Et là, tout le monde a applaudi parce que chacun sait que dans les jours qui viennent, Andrés Iniesta va annoncer qu'il quitte le Barça, qu'il quitte l'Espagne, puisqu'il va aller jouer en Chine pendant 3 ans. Les raisons de son départ et tout, ça le regarde. Et ça m'a fait quelque chose. J'étais très content d'être
dans les épinards.
Oui, mais j'étais très content d'être dans ce Wanda Metropolitano parce que j'ai vu l'adieu dans sa dernière finale avec le Barça, l'adieu à l'Espagne c'est un avis tranché, celui que moi personnellement, avec ma petite culture footballistique et mes 25 ans d'Espagne, je considère comme le plus grand, le meilleur, le plus grand, surtout le plus grand joueur espagnol de tous les temps. Alors, c'est un palmarès de malade, c'est 31 titres avec le Barça, dont 4 Ligues des Champions.
C'est et pas en touriste.
Et pas en touriste, oui. C'est 2 euros avec l'Espagne. C'est
4 Ligue des Champions, il m'en manque un, vas-y.
Une finale de...
2006,
Ah, 2006, Daniel. Oui, il est pas, oui, 2006, oui. Ouais, mais, ouais, je suis braqué sur la
Daniel,
période.
On va te laisser faire le lavis tranché si tu veux, comme
non,
ça.
Non, mais c'était juste pour réfléchir au palmarès en même temps.
Si tu veux, c'est quand tu dis, quelque chose, on a le droit de poser des questions, tu vois, Fred.
Ouais, mais je finis simplement.
Ah ouais, non, mais si c'est juste un monologue, préviens-nous, comme ça, on quitte le plateau, si t'es
vexé. On laisse au correspondant une minute et demie, parce que, et puis après, on peut discuter.
Non, mais on a le droit de demander, par exemple, où est-ce que sont les 4 Ligues des Champions de, voilà, et puis comme ça, tu montreras tes connaissances en nous rappelant que 2006, il était là.
Mais bien sûr.
Bah voilà, donc t'énerve pas.
Oui.
Hein, parce que j'en avais trois dans ma tête.
C'est un joueur extraordinaire qui en plus a gagné le mondial avec l'Espagne en 2010, notamment en marquant le seul but, le but de la victoire, le 1-0 face à aux Pays-Bas. Il représente tout parce que finalement c'est un joueur qui est né dans une famille très madridiste, lui-même jusqu'à l'âge de 12 ans quand il intègre le Barça, il est pro-Real. Il évolue, il devient bien entendu pro au Barça, et puis dans cette finale de Ligue des Champions, il soulève son maillot et il rend hommage à son ami qui venait de mourir, un joueur de l'Espagnol, Dani Jarque. Dani Jarque qui était de l'Espagnol, qui est le grand rival du Barça. Voilà, c'est quelqu'un qui est le plus grand aussi parce que il est jamais rentré.
Parce qu'il fédère les gens.
Il fédère les gens, exactement, parce qu'il est jamais... Tu vois, quand tu veux, tu peux apporter des trucs.
Ouais, bah non, mais
il fédère les gens, il est...
Ouais, parce que
le football... Le football... divise tellement, tellement souvent et parfois jusqu'à la mort,
jusqu'ici.
Que voir quelqu'un qui unit comme ça en étant un joueur génial et qui s'est en plus sacrifié pour les autres. Messi est un joueur fabuleux, l'un des plus grands de l'histoire du football. Après, est-ce que Messi aurait eu la même carrière avec sans Iniesta derrière? Je suis pas persuadé. Donc voilà, c'est un avis tranché. Il y a débat pour moi. Plein de gens m'ont dit sur Twitter, oui, il y a Xavi. Sauf que Xavi avait pas ce côté pacificateur et unificateur rassembleur qu'a Iniesta. Donc pour moi, oui, celui qui va partir dans quelques jours, qui a joué sa dernière finale en Espagne samedi soir, est le plus grand joueur espagnol de tous les temps.
Ouais, bon, de toute façon, le débat, il peut être avec qui?
Luis. Et moi, j'ai eu la chance de commencer ces métiers dans une émission italienne. J'étais à ta place, on peut dire. Et entre les invités, il y avait Luis Suarez qui venait toujours. Et lui, je me rappelle, a toujours regretté qu'en 2010, Iniesta ne gagne pas les ballons d'or. Il aurait été le seul espagnol qui gagnait le ballon d'or. Avec
depuis Luis Suarez.
Luis Suarez, c'est le seul qui l'a gagné jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il avait vraiment une passion pour Iniesta. Et même s'il pouvait piquer un peu son record, il a toujours adoré ses joueurs. Et les plus grands, avant Iniesta, rendent toujours un hommage. Elle est plus grande d'aujourd'hui.
Non, mais ça tient. Moi, je suis assez d'accord.
Stéphano, non? Il n'était pas espagnol.
C'était pas vraiment espagnol. Même s'il a eu plusieurs nationalités, il n'est pas considéré espagnol.
Ouais, mais c'est un joueur argentin.
Non, mais c'est surtout Iniesta, c'est un
peu. Il est même joué pour la Colombie, alors c'est dire.
Oui. Parce que le football espagnol, pendant des années, quand même, ne gagnait rien. Il décevait avec l'équipe nationale. Et la génération forte. Donc qui commence avec l'Euro 2008, bah dans les joueurs plus forts, il y a lui et puis lui
et
en
Raoul.
Plus. Puis il y a lui qui gagne aussi en club à côté, il y a lui qui continue à gagner avec la sélection 2008, 2010, 2012. Donc non moi ça me va la vie, moi je suis Iniesta.
On est d'accord, parce que en plus je trouve qu'il a une élégance. En plus après il faut aimer le football hyper technique, hein, c'est-à-dire que
non mais en plus c'est vrai que sa personnalité joueur, est extraordinaire et sa personnalité c'est vrai moi. Ouais, alors que j'adore Xabi, elle m'intéresse plus que celle de Xabi. Oui. Pour avoir vu le reportage, lu des choses sur lui et tout, Iniesta, il est dans une autre dimension encore.
Le seul regret peut-être, Fred, c'est que on le perde si tôt parce qu'il n'a que 33 ans. Et moi, quand je le vois jouer cette saison, j'ai l'impression de...
Il est bien géré, hein. Il a été bien géré, mieux cette saison que la saison dernière. Après, on l'a déjà évoqué, mais on va en deux mots, hein. Mais il a perdu beaucoup d'argent avec sa bodega parce qu'il cultive du vin, et donc voilà. Partir en Chine, c'est gagner de l'argent et aussi ouvrir un marché.
Il va remplacer le vin par le beurre.
Mais voilà, c'est tout à l'heure qu'on disait le beurre dans les épinards, c'est plutôt du beurre dans le pinard. Quoi, voilà.
Parce que
il faut des débouchés. La Chine, et on sait bien en France que les Chinois achètent beaucoup de grands châteaux bordelais. Il y a un gros marché chinois pour le pinard. Le rouge, et donc il va aussi essayer de profiter de sa notoriété en Chine et de sa présence en Chine pour ouvrir des marchés pour le débouché de son pinard.
Comme le disait Nino Ferrer, le quart de rouge, c'est la boisson du garde rouge. Je vous le rappelle dans une chanson éternelle qui s'appelle Bao et moi.
Très bien.
Mais sans blague, en plus.
Bah oui. Alors, ça nous, ça nous permet d'enchaîner. Je sais pas si c'est ça qui nous permet d'enchaîner, mais on va enchaîner quand même. Sur le Real, Fred, avant cette semaine, donc, de Ligue des Champions, avant d'affronter le Bayern.
Mercredi, ouais. Les dernières nouvelles, bah, là, ouais. On va être dans le pur. Parce que le Real n'a pas, alors, ce qu'il y a d'intéressant, et ça, j'écouterai avec attention ce que va dire Lorto sur le Bayern tout à l'heure, c'est que le Real Madrid a une semaine de repos. Parce que ce week-end, il y avait la finale de la Coupe, donc Barça qui a battu Séville, et en championnat, c'était Séville qui devait rencontrer le Real, donc le match est reporté à la fin mai. Donc le Real n'a joué qu'un match en milieu de semaine la semaine dernière, donc ça fera exactement, c'était mercredi dernier, une semaine de repos. Il y a plus que Nacho qui revient de blessure, qui sera pas disponible ce match-là, mais qui devrait être de retour à l'entraînement collectif cette semaine, qui sera disponible pour le retour. Mais sinon, ils arrivent. Ce qui est génial, c'est quand on voit tous les absents qu'il y avait, par exemple, au moment des huitièmes de finale, là, le Real aura un effectif complet, en tout cas son équipe type, même ses deux équipes types complètes. Et ça, c'est énorme pour Zidane, qui peut faire tous les choix. Arriver dans une bonne forme physique, sans blessure, et surtout bien physiquement, à une demi-finale aller de Ligue des Champions, c'est quand même un énorme avantage pour Zidane. Donc, état d'optimisme est déclaré à Madrid, et puis un état d'excitation, parce que c'est le grand classico européen. Pour les Madridiens, l'ennemi en Espagne, c'est le Barça. L'ennemi en Europe, c'est le Bayern. 24 confrontations dans l'histoire de la 24 matchs, donc 12 confrontations dans l'histoire de la C1, donc des coupes d'Europe, des clubs champions et Ligue des Champions. Jamais de finale, c'est une des finales qui nous manque, et c'est vraiment un club, le Bayern, qui a été la bête noire du Real pendant de très très longues années. Le Real n'avait jamais gagné dans son histoire à Munich. C'est Ancelotti avec cette fameuse 4-0 en 2014 sur la pelouse du Bayern face à Guardiola que c'est rompu. C'est un peu cette malédiction en espagnol, et malédiction, et donc et quelque part on se dit à Madrid que il vaut mieux prendre le Bayern sur deux matchs que sur un seul match en finale. Voilà, donc le Real est tout à fait prêt pour cette rencontre, mais ils sont pas plus confiants que ça, hein. Je veux dire, ils sont là, c'est l'état d'alerte, c'est-à-dire que là on rencontre le top du top. Il y a pas de, et puis je pense que la grosse frayeur qu'ils se sont faite contre la Juve a pu être bien utilisée par Zidane dans sa préparation de cette rencontre.
D'accord. Et tu voulais dire un mot sur l'Atlético aussi?
Ah, oui. Ben on a un gros match, hein, Philippe, hein, et Arsenal,
oui,
Arsenal Atlético.
Ah, ben là on a un autre match de Ligue des Champions cette semaine, jeudi. Oui.
Ben on est d'accord. Exact. Ouais. Oui, non, c'est vrai, on peut le dire,
Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que nous en France les deux matchs sont en même temps. Évidemment, on va être focalisé sur l'OM et qu'on rate ce match-là qui, alors que les deux autres, on va les voir, tu vois.
Mais ils auraient pu faire moi je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait 19h05.
Puisqu'ils
font ça pendant toute l'année, ils nous font avec des horaires là,
Là, c'était l'occasion qu'on puisse se faire une belle soirée, quoi.
Ouais, bien sûr. Donc là aussi, bon, l'Atlético va se présenter sans Diego Costa, qui est toujours blessé, donc ça, c'est une grosse perte. Simeone a fait énormément tourner ce week-end, ce dimanche. Voilà, on a une équipe de l'Atlético plutôt sûre d'elle.
Deux équipes qui se sont fait un peu peur au tour d'avant.
Oui, parce que c'est vrai, absolument, que l'Atlético sur la pelouse du Sporting Portugal, après avoir gagné 2-0 à l'aller, était mené 1-0. Vraiment, a eu beaucoup beaucoup de mal.
Et Arsenal, pareil. Hein.
Ouais. Arsenal, c'était compliqué à Moscou.
C'était un but de se faire éliminer les deux.
Hein. Ah ben, à un moment, ils ont pas été menés 2-0. Arsenal.
Ils sont menés 2-0, absolument. Ah ouais.
Bon, l'Atlético, ils ont été un but de la prolongation, mais ils n'étaient pas bien du tout, hein. En plus, c'est là-bas que Diego Costa se blesse. Donc voilà, l'Atlético, qui est, le grand favori, hein, à mon avis, de cette Ligue Europa. Ça va être très très intéressant de voir cette équipe à Arsenal. Voilà, il manque Diego Costa, mais bon, il y a celui que moi je considère
depuis le départ annoncé de Wenger.
Arsenal, je me posais la question.
Arsenal, selon moi, a pris un coup de fouet.
Mais bien ou pas bien?
En bien. Moi, je pense qu'ils se sont requinqués. Tu vois, c'est un peu comme si tu, d'un coup, cure de vitamine.
Non, mais comme Lucien Riquet l'année dernière, quand il annonce son départ avant le match retour contre le PSG.
C'est vrai. C'est exactement ça. Mmh. Exactement.
Mmh. Ouais. Ouais, là, c'est pas vraiment pareil, quand même.
Oh, mais tu avais pas pensé. Donc, si on en avait parlé dans la journée, tu dirais oui, très bon exemple. Là, t'as été pris de court, donc tu dirais
en fait, le problème, c'est que Si je n'y ai pas vu pensé, si je n'y ai pas pensé, c'est que c'était complètement bidon comme exemple.
Non, tu as pas pensé peut-être. Peut-être ça t'a échappé aussi. Seconde. Bah ça non, tient pas plus la route que les joueurs le sont départ, libérés par le départ de Wenger.
Le départ de Wenger d'Arsenal à Luis Enrique qui annonce qu'il va quitter
du ressort psychologique, ça se passait pas très bien, etc.
Rien à voir, Jean-Louis, désolé.
Ça a tout à voir, c'est juste que tu n'as pas envie d'écouter et de toute façon tu feras pas marche arrière parce que tu es buté par.
Mais je ne vais pas faire marche arrière parce que
là t'exagères.
Là vraiment t'exagères, ça ne vaut pas la peine. Et demande à Philippe Auclair, elle sera d'accord avec moi.
J'ai le temps pour
il le prend en otage.
Petit mot sur les Ventés.
Il dit rien, ce qui est d'accord avec moi. Oui, un petit mot sur les Ventés.
C'est Ventés. Vous vous souvenez qu'il y a pas si longtemps, là, en France, on voulait réduire les descentes et les montées à deux. En première, entre la première et la deuxième division.
Oui.
C'est pas de conneries.
Oui. Bah, c'est deux, hein, maintenant, en Ligue 1 avec un barrage.
Avec un barrage.
Ah ouais. Voilà. Mais, là, ce qui se passe en Espagne, c'est que, les trois, derniers descendent. Les trois premiers de la deuxième division montent avec un barrage de montée pour le troisième. Mais simplement, mais il n'y a pas les trois derniers de la première division, je m'explique, descendent. Quand on voit ce qu'est en train de faire les Ventés, le match qu'a fait les Ventés ce soir, en gagnant 3-1 à Bilbao, ça donne de l'énergie dans une Liga qui est finie devant, qui donne beaucoup d'énergie. Voir ces mecs comment ils se sont battus, et je me disais mais si jamais parce qu'on parle beaucoup de plus en plus de ligues fermées avec des franchises, vous savez, où il y a parce que comme il faut faut bloquer parce que pour que les investisseurs viennent, il faut pas qu'il y ait d'inconnus parce qu'il faut être sûr d'être là pendant de nombreuses années. Mais on tue le football en ce cas-là. Et quand on voit le match que fait les Ventés ce soir, je me dis mais heureusement que le football n'est pas comme la NBA par exemple, qu'il y a pas de, c'était pas de, ce sont pas des ligues fermées parce qu'on perdrait des émotions énormes. Oui.
Et voir le regarder bonheur. Ça pour un avis tranché, Fred plutôt, non?
Oui.
Ça fait pas bander les foules quoi. Bon. Mais simplement. Ça peut être aussi intéressant de voir des équipes. Ouais. Le bonheur de l'Éventé ce soir qui est quasiment sauvé, je peux vous dire que ça vaut le bonheur d'une équipe.
Mais nous la beauté de la Ligue 1, Philippe, c'est Metz, le dernier qui était condamné, qui revient là en ce moment. Bravo, qui revient sur aussi. Tout le monde.
Donc, on est d'accord.
Je peux résumer?
Oui.
Les premières quatre, c'est bouclé, la Ligue 1, plus un coup d'intérêt. Oui. Le maintien, c'est bouclé, aucun intérêt, et donc vous trouvez quelque chose à dire.
C'est le 17e l'intérêt.
C'est la Ligue 1. Repose sur le 17e.
On arrête là. Pas toi, Simonet. Pas toi.
Non, je te fais encore avec les mains comme ça.
Oui, je vois ça. On voit la télé. Juste parce que l'after n'est que des que passion et amour et parce que j'aime pas les conflits. Daniel et Fred, vous pouvez vous envoyer un petit bisou là à distance. Que j'en ai marre de recevoir des messages. Encore une embrouille, Riolo Hermès.
Non, il y a pas d'embrouille là. Non, mais moi j'ai. Non, mais il faut reconnaître que Daniel. Je comprends mes avis tranchés. Et je veux simplement une minute.
Rien. Voilà. Un bisou.
Non, moi je veux une minute. Quoi, bisous Daniel.
Où est-ce qu'il y a des problèmes?
Voilà. Mais non, mais j'en ai marre dès que. Non, mais là, vous êtes. Il y a eu un échange un peu tendu avec Fred.
Mais
juste
où est-ce qu'il y a eu un échange tendu?
Bah quand j'ai dit, est-ce que je peux quand même intervenir? Et Fred, il a dit non, tu n'interviens pas.
Parce que j'ai dit, parce que je demande une minute pour mon avis tranché que je travaille depuis deux jours.
Daniel, fais-lui un bisou gratuit.
Voilà,
comme
envoie-lui un petit bisou.
Un petit bisou.
Gratuit d'un bisou à Fred.
Voilà, mille Fred, t'en as eu.
Il a pas besoin que je lui dise publiquement.
Si.
Parce que Fred, nous on en avait besoin. Ça nous fait du bien.
Ah non mais moi l'amour de Daniel, moi je l'aime bien comme ça. Amicalement c'est bien. Mais
Fred, il a besoin d'amour, mais on a tous besoin d'amour. Il n'y a pas que Fred.
Oh mais c'est Fred. Fais un bisou à Daniel.
Non.
Mais bisous Daniel. Certains plus que d'autres. Voilà, certains sont plus sensibles.
Je ne reviens pas tant parce qu'il y a les copains qui attendent. Allez, bisous Daniel, c'est bon.
Et tout le monde a sa sensibilité. Fred Hermel n'est pas plus sensible que moi.
Oui. On a beau avoir gagné 12 Ligue des Champions et le championnat de France en 98, on reste très sensible. Voilà.
Voilà, c'est vrai. Tout. On va rester sur ces belles paroles et dans un instant, avis tranché de Simone Rovera et de David Lorto. C'est l'after jusqu'à minuit où tout le monde s'aime. C'est génial. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec nos drôles de dames, Simone Rovera, Philippe Auclair, Fred Hermel, David Lorto. Ils sont tous là avant cette semaine de Ligue des Champions. Évidemment, avant l'Allemagne, place à l'Italie, jingle Rovera.
Il y a Alexis Sanchez.
Chapeau 4.
Alexis Sanchez, oh, impossible.
Il est à Arsenal, il n'est pas au Real Madrid, monsieur.
Simone Rovera qui nous parle de la meilleure ligue du monde.
Attends, les chapeaux, il va falloir repartir là-dessus.
Vous m'avez vendu des chapeaux là depuis le début de saison. Ouais, j'ai jamais rien vu.
Oui, mais c'est en fin de saison plutôt.
C'est fin de saison les chapeaux.
Ça approche la fin de saison.
C'est au moment où le directeur sportif
nous écoute pour choisir
les joueurs.
Voilà. Alors, chapeau 1 des championnats en jeu, donc l'Italie. Simone, et ton avis tranché concerne Allegri?
Oui, Massimiliano Allegri qui, selon mon avis tranché, à la fin de la saison, c'est mieux pour lui qu'il trouve une nouvelle défi.
parce que la Juve là, est en train de l'épuiser. Je pense qu'elle a totalement épuisé dans sa façon de pouvoir travailler, de pouvoir bâtir quelque chose. C'est les quatrièmes.
Quatre. Ouais. Ah, c'est beaucoup.
C'est la quatrième saison. Et 4 ans à la Juve, je pense que c'est beaucoup plus compliqué.
C'est 22 ans à Arsenal.
Parce que ça, je sais pas. Mais parce que la Juve, elle a cette, c'est même pas un besoin de gagner. C'est un impératif. C'est soit tu gagnes, toi c'est un échec total.
Lui, ils ont tout gagné tout le temps. Ils ont fait les titres et 2 finales de Ligue des Champions. Ça va.
Mais ça suffit pas. Ça suffit jamais. Et je trouve.
Ça suffit pas. La Juve, il la gagne jamais la Ligue des Champions. Ils en ont gagné 2.
Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'Allegri n'a jamais eu presque le temps depuis qu'il est arrivé à la Juve de bâtir quelque chose. On lui reproche tout le temps. T'as pas donné un style de jeu à la Juve, c'est vrai.
S'il a pas donné. On le dit ça en Italie.
Oui.
On le dit pour la Juve parce que traditionnellement, c'est pas un reproche qu'on a beaucoup fait à la Juve, ça.
Non, alors, ça arrive, alors, aujourd'hui, c'est arrivé encore plus, bien sûr, parce que comme.
Après ce qui s'est passé hier.
Après qu'il a perdu hier,
qui
même
a parlé
les supporters
de ça, tu sais qui a parlé.
Bah, il y a eu des.
Parce qu'il y a eu des conflits, Allegri avec les autres, quand il a dit, si vous voulez du spectacle, vous allez au cirque.
Avec ça,
il y a eu une
qui,
prise de
bien sûr.
Avec ça, qui.
Bah, aujourd'hui, des grands éditorialistes sur la Gazzetta dello Sport, mais aussi sur Tutto Sport, journal très proche de la Juve, reproche à Allegri l'effet de n'avoir pas donné un vrai style de jeu à la Juve.
C'est un club qui a la culture du résultat.
C'est un club qui a la culture du résultat. Après, une autre chose, un 3 mercato qu'il a vécu comme entraîneur, ils ont changé 18 joueurs, la Juve. Lui s'est retrouvé avec 9 joueurs titulaires changés de la première équipe, plus ou moins, qui arrive en finale des champions, à celle de cette saison. C'est une Juventus qui a toujours voulu changer, n'ont jamais donné même les temps et les clés pour bâtir quelque chose, pour aller plus dans les, au fond de mon discours. Sarri, il a changé 3 joueurs, même pas 2 joueurs de l'équipe qu'il a pris quand il est passé de Benitez, Allegri a changé 8. Donc, c'est normal si la Juve, chaque année, vend un Pogba, une Tevez, fait partir à Pirlo, fait arriver Khedira. La première saison, celle de la véritable révolution d'Allegri, dans un été, ils ont vendu Pirlo, Vidal, Llorente, Tevez, Coman, Pepe, qui était quand même important dans les premiers cycles, Ogbonna qui est parti, Storari qui était le remplaçant, mettait un cadre de vestiaire. Ils ont changé 8 joueurs. Ils ont toujours cherché de regarder vers l'avenir. Et si Allegri, en certaine façon, a été toujours victime, un peu esclave du résultat, de cette culture du résultat,
ouais, mais
c'est
lui,
parce que la Juve.
Il n'est pas victime de ça, parce que lui, il est imprégné de cette culture.
Lui, il aime ça. Lui, il aime
pour
ça.
Moi, Allegri,
mais tout lui donne pas les temps
moi, Allegri,
de
c'est un Capello. Moi,
je suis
pensé
d'accord.
À Capello. Il fait penser à Capello qui, au bout d'un moment, a fini par être... parce que le football évolue aussi, même si ce sont des entraîneurs. Capello était un entraîneur extraordinaire. Je pense qu'au bout d'un moment, il n'était plus vraiment en phase. Et je pense qu'Allegri, qui est un entraîneur extraordinaire, je pense qu'il aura des résultats partout où il ira.
Et c'est pour ça que moi, j'ai de l'ambit.
Il est un peu... Il faudrait qu'il se réinvente lui-même et je sais pas s'il en a réellement.
Est-ce que c'est pas les entraîneurs qui ont besoin de périodes comme ça, de cycles de 3-4 ans et ensuite d'un cycle sans rien faire?
Peut-être.
À réobserver.
Je sais pas, mais là, l'année prochaine, où est-ce qu'il pourrait aller? C'est compliqué.
Mais c'est justement ça,
il y a de la place, hein. Il y a de la place en Angleterre.
Il y a de
quel âge
place,
a-t-il, Simonet, aujourd'hui?
Il est jeune.
Il a l'âge d'un entraîneur.
Je dirais 50.
Il a pensé qu'il était plus jeune que ça, moi.
Ouais, en plus en moins. Non, mais il est quand même jeune au plus haut niveau, parce que quand même, il avait fait Milan avant, il fait la Juve.
Tu crois vraiment qu'il va partir?
Je pense que...
Parce que la Juve, il prendrait qui à la place, pour avoir le fameux style de jeu?
L'entraîneur suivi par la Juve, en ce moment, c'est Simone Inzaghi, l'entraîneur de la Lazio, qui a fait des très belles choses.
Ah, mais là, il repartira sur un entraîneur jeune.
Jeune.
Qui a pas gagné encore.
Qui a pas gagné.
C'est difficile pour la Juve. Ils font pas beaucoup, ça, hein.
Mais qui a un style offensif, qui c'est l'équipe qui a marqué plus de buts cette saison, c'est l'équipe qui a battu la Juve plusieurs fois cette saison. Simone Inzaghi, c'est l'entraîneur qui monte.
Ils ont déjà fait la Juve et ça de prendre un entraîneur comme ça, un peu jeune, qui est pas encore affirmé.
Quand Allegri Ancelotti arrive de Parme, si je ne me trompe pas. Et après, les vraies victoires d'Ancelotti sont après la Juve.
Ouais, c'est après Milan. Parce qu'à l'époque de la Juve, il passe pour un loser.
Mais à un certain moment, la Juve doit chercher aussi de penser que les cycles des 7 années consécutives, je ne sais pas si ça va être les 7e titre consécutif, vont se terminer. Il faudra chercher
passer à autre chose.
Répartir avec d'autres bases. Parce que moi, je trouve que depuis 2006, depuis la relégation, la Juve a toujours eu cette envie de montrer qu'il était toujours le plus fort. Donc, gagner
retourner à la victoire avec Conte, c'était retrouver l'oxygène après avoir respiré des poisons pendant des années. Quand Conte a voulu partir, Allegri a été pris pour montrer que la Juve était supérieure à Conte. Il pouvait continuer à gagner et plus gagner, même sans Conte. Donc il y a eu toujours ces besoins presque toxiques de gagner, même si je trouve que les supporters de la Juve ont toujours aimé ça, parce que la Juve doit gagner, mais ça allait au-delà de la construction.
Pour revenir à l'actu et à ce qui s'est passé, il y a, si tu dis ça, c'est quoi? C'est qu'après hier soir, il y a eu comme un parfum qui a plané en Italie de fin de cycle, même s'il y a encore un point d'avance, les gens se disent Naples va y arriver.
C'est pas qu'on dise de Naples va y arriver, c'est que cette victoire de Naples pour la façon dans laquelle elle est arrivée, surtout pour la façon dans laquelle la Juve s'est sabordée sans jouer vraiment ces matchs. Et je ouvre en parenthèse sur les moments les plus durs de cet cycle d'Allegri à la Juve. Si tu regardes, c'est toujours 90e face au Bayern, 90e il y a deux ans, face à la Lazio, Supercoupe, 93e cette année, face au Real Madrid, 93e, et hier 90e. C'est un peu comme, à un certain moment, la Juve est sûre d'elle-même et n'arrive pas à penser que les dernières minutes peuvent être en danger. Et sur ça, peut-être, c'est une leçon d'Allegri qui n'arrive pas à passer sur certains moments. Lui, hier, il a dit plusieurs fois, on a géré mal les derniers ballons. Il avait dit même à Madrid, il y a des ballons à gérer, il faut faire certaines choses. Les joueurs, peut-être, l'ont cherché de trop balancer, ils l'ont perdu. Mais il n'a pas attaqué les joueurs. Il a seulement regretté la façon de gestion de certains ballons. Je trouve qu'Allegri doit prendre une autre ère. L'ère de Turin lui a fait très bien. L'a fait devenir un grand... pas une très grande Europe, mais un grand d'Europe, parce que deux finales en trois ans ont été extraordinaires. C'est la seule équipe qui, jusqu'à maintenant, a éliminé le Real Madrid dans les dernières quatre ans. Quand il arrive en finale, une fois il élimine Barça, une fois il élimine Real, donc il fait tomber aussi des grands. C'est les bons moments pour lui de partir.
Et la aujourd'hui, théorie du coup de matraque post-Madrid est difficile à digérer?
Parce
qu'il y a donc, depuis Madrid, il y a eu en championnat un nul inattendu et la défaite contre Naples à la dernière minute.
Il y a eu aussi
une
victoire face à la Sampdoria avant.
Ah, mais j'ai oublié celle-là.
Oui, 3-0 si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout entendu. Les sites, mais même tout au sport que je dis très proche, avec les sondages, est-ce qu'il faut virer Allegri? Est-ce que Naples va gagner les titres? La grande majorité en Italie pense que Naples va gagner.
Ah oui, elle a fait
donc
mal, cette
il y a une forme de et plein de supporters de la Juve qui en veulent à Allegri pour la façon dans laquelle la Juve a joué à domicile un match pour les titres face à ses supporters et comment Naples a mieux joué. Or, j'ai trouvé que jamais la Juve pourrait prendre un entraîneur comme Sarri. Parce qu'elle n'a pas les styles,
C'est une affaire de style. Mais Simone Inzaghi, il colle.
Voilà.
Il porte bien le costume.
Alors, Simone.
Et c'est très important quand on dirige la Juve. Et c'était quoi la peinture rouge qu'ils avaient sur la tronche hier pendant le match?
C'était contre une campagne contre les violences sur les femmes qui s'appelait un rouge contre les violences.
D'accord.
C'est pour dénoncer les violences conjugales en Italie.
Ok.
Gardons une minute juste pour évoquer la Roma que l'on retrouve demain en Ligue des Champions, donc, qui avait aussi fait tourner, hein.
Oui, je dis seulement que cette nuit, il y a eu entre 10 et 15 000 supporters de Naples.
Comme annoncé hier.
Les retours de l'équipe à l'aéroport et qu'il y a un ferveur incroyable dans la ville. Et si ça ne tombe pas de mauvais côté, ça peut aider dans la lutte au titre. La Roma fait énormément tourner ce week-end. Elle a fait une victoire, je dirais, des grandes équipes. Parce que face au Spal, qui c'est une petite qui joue le maintien, mais qui est plein de motivation, ils ont bien géré, ils ont plein d'occasions. Il y a eu les remplaçants, comme Zeko, Florenzi, De Rossi, Kolarov, Zeni Kunder sont restés sur le banc tout le temps. Kunder est rentré à la fin de match.
Patrick a été bon.
Patrick a marqué son...
J'adore le nom de ce mec.
Il a marqué son premier but en championnat de la saison. Imaginez un joueur payé 42 millions d'euros comme la plus grande recrue de l'été qui part en France. C'était un peu nul. Mais la Roma arrive avec une dynamique incroyable et je trouve que depuis la victoire face au Barça, ils sont accompagnés de la musique de Daniel Riolo.
Ouais, c'est pas mal avec la musique.
Ils sont plus mûrs, plus solides et mentalement ils ont compris que peuvent vraiment avoir un petit rôle à jouer en cette Ligue des Champions.
Mais d'où il vient ce Patrick? J'ai jamais entendu parler de ce joueur.
Ah non, moi j'ai découvert là.
Tu connais pas?
Non, en tout cas, franchement, je connaissais pas.
Ah, il a
non, mais où il était avant? Il avait fait quoi?
La Sampdoria, il avait, la saison dernière, si je me trompe pas, il était les moins des 20 ans qui a marqué plus de buts en Europe derrière Mbappé.
Il avait complètement échappé ce Patchik.
Il a coûté cher.
Ah, il a coûté cher?
42 millions.
Oh, c'était pas une blague.
Ah oui, je croyais que c'était un jeu de mots début qui m'avait échappé.
Non, non.
Ah oui, 42.
Quoi? 42.
Oh.
Elle était la révélation de la Serie A de la saison dernière.
Messieurs, place à la balle. C'est le moment,
je l'ai loupé. Oh,
là, jingle l'orto.
Je suis convaincu, je tombe de l'arbre.
Le temps que Daniel se remette.
J'étais dit une chose.
Les yeux de Daniel, comment je l'ai loupé
à la fin.
Ah, après, quoi? Tu dois me dire un truc.
Ouais,
parce qu'il a changé de nom entre temps.
Mais non.
Dis-moi, tu veux pas le dire là. Mais...
Bon, alors, dis-le vite fait. Non, tu peux
mais
pas
non,
le dire.
Je vais le dire après.
Alors, on y va. Ouais. Jingle l'orto.
Entre moi et lui.
Moi, je sais déjà ce qu'il va dire.
Jingle l'orto pour se remettre de nos émotions.
Je rappelle que l'orto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et là, tu veux nous parler d'Ulreich, le gardien de but du Bayern.
Ça m'intéresse.
Exactement, exactement. Et oui, oui, il faut faire une petite synthèse sur ce jeune homme qui a complètement révolutionné son jeu. Il est arrivé au Bayern, ce gardien de but de Stuttgart, modestement, en 2015. C'était un bon gardien de la Bundesliga. Il était jeune à l'époque, 25 ou 26 ans, je ne sais plus exactement. Il est tombé au fond du trou avec Carlo Ancelotti cette saison. Je me rappelle la sixième journée de championnat contre Wolfsburg. Il fait une cagade monumentale, un ballon lointain de Maximilian Arnold et qu'il boxe dans ses propres buts.
Sven Ulreich était,
Et voilà, absolument. Il était en totale perte de confiance. Il avait absolument plus confiance en ses moyens qui pourtant sont réels parce que sinon il n'aurait pas accepté de venir au Bayern. Jupp Heynckes arrive, tiens, encore lui. Et puis immédiatement, eh bien, dans les nombreuses discussions que l'entraîneur peut mener avec ses joueurs, c'est Ulreich qui le raconte lui-même ces derniers temps. Il lui redonne une forme de confiance. Et Sven Ulreich, figurez-vous, si on regarde un petit peu ces dernières semaines, est en train de devenir un gardien tellement fort, tellement sûr de lui, tellement excellent dans les 1 contre 1, notamment face aux adversaires adverses.
Qui va aller à la Coupe du Monde à la place de Neuer.
Presque. On est en train de commencer à vraiment, vraiment débattre en Allemagne. Ah. Évidemment, les grands anciens, ils vont de leur jugement à ce sujet.
Mais est-ce que dans quel état est Neuer, parlez-moi la question.
Alors,
Neuer... Il peut revenir, on en est où là?
Bien sûr, bien sûr. Il a repris l'entraînement avec les coéquipiers, ça y est. Il est possible, en théorie, que Manuel Neuer rejoue avant la fin du mois d'avril. Je sais pas si vous voyez l'échéance. Et de toute façon, il va rejouer, de toute façon, en mai, à minima en championnat. Et si Heynckes, ce qui pour moi est peu probable, a envie de prendre un risque sportif, il fait même jouer Neuer potentiellement au match retour contre le Real.
D'accord.
C'est possible. Certains, mais ils sont minoritaires, poussent dans ce sens. D'autres,
je ne sais pas si je le ferais, ça, moi.
Bah, ça fait 7 mois qu'il a pas joué.
Ça dépend d'Ulreich, en fait.
Bah oui, exactement.
Le mec, il est tout le temps bon. Bah donc, tu le fais pas.
Il est tout le temps bon. Il a été décisif contre Leverkusen en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Il a maintenu son équipe à flot au moment où ça tanguait. Ce week-end, mine de rien, il fait une parade décisive aussi contre Hanovre. Et il multiplie les arrêts décisifs au fil des semaines. Il y a des hashtags qui commencent à fleurir autour de lui. Sven the Wall, Sven le Mur. Et puis aussi, un jeu de mots. Ulreich, c'est aussi on dit Zunul en Allemagne quand on arrive à faire une clean sheet, ça veut dire qu'on n'a pas encaissé de but à zéro, et on dit Zunul Reich. C'est un jeu de mots qui est pas forcément très drôle en français, mais qui est utilisé maintenant dans les hashtags en Allemagne. Moi, mon avis tranché du soir, pour résumer, messieurs, c'est que Sven Ulreich est carrément en train de faire oublier Manuel Neuer, carrément. À tel point qu'on envisage de le faire, bien sûr, dans le staff du Bayern, de le faire jouer en finale de coupe, bien sûr, mi-mai, et éventuellement dans le grand match, si on arrivait à écarter le Real, dans le grand match que constituera la finale de Ligue des Champions. Et là, bien sûr, il y a aussi quelques avis qui s'élèvent en disant, attention, ça va pas être tout à fait pareil, c'est un joueur qui n'a pas connu la pression du très haut niveau encore, et du coup, on va être très curieux, Fred en particulier... Mercredi, voir ce qu'il va faire contre le Real.
Parce que les tirages jusqu'ici en huitième et en quart, ça a été plutôt simple pour le Bayern.
Oui, mais regarde, contre Séville, il a assuré.
Il a assuré, oui. Mais c'est que Séville, là, c'est le Real et c'est Ronaldo.
Tout cela fut passionnant. Sachez-le, mais on doit s'arrêter là.
J'avais une question pour.
Ah oui. Non, écoute, appelle-le après l'émission et vous pourrez en parler directement.
Ça va être la saison prochaine. Ça va être la saison prochaine.
La saison prochaine, effectivement, et on en reparlera la saison prochaine.
Il a prolongé jusqu'en 2021.
D'accord. À l'année prochaine.
Merci à tous. Merci les drôles de dames. On suivra Ulreich bien sûr. Mercredi pour Bayern Real. Demain Liverpool Roma. Merci Simone, Philippe, Fred, David. Merci Pierre. Merci Daniel.
Ciao. Bonne soirée.
Revient toute la semaine, bien sûr.
Ciao. Bonne nuit plutôt.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.